Europe 1 13.
Il est 13h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
13h, 14h, Thomas Chenel.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche d'informations que nous allons vivre ensemble, à commencer par le journal au sommaire aujourd'hui. Nous sommes 5 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame et le pari de sa reconstruction est en passe d'être tenu. Sa réouverture au public est prévue le 8 décembre prochain. À J-100 des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron lève le tabou et annonce des plans B et C au Trocadéro, voire au Stade de France pour la cérémonie d'ouverture en cas de menace terroriste. Le Moyen-Orient est au bord du précipice, les mots du patron de l'ONU dans la foulée de la toute première attaque iranienne contre le territoire d'Israël. Les hostilités vont-elles s'arrêter là? Où sommes-nous au début de l'escalade? On en parle ensemble après le journal. Et avec vous au 01 80 20 39 21. Vous avez le programme de cette heure d'information. 13h, la tendance météo, Michael Poteau.
Eh bien écoutez Thomas, il fait beau et venteux au sud avec des températures flirtant les 25 degrés. En revanche, c'est plus compliqué au nord avec une perturbation qui touche actuellement les côtes de la Manche avec des vents violents et qui descendra progressivement jusqu'au Massif central.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après.
Journée spéciale sur Europe 1.
Nous sommes le 15 avril 2024. Cela fait pile 5 ans que Notre-Dame de Paris a été ravagée par les flammes. 5 ans que nous sommes... 5 ans après, eh bien, nous sommes dans la dernière ligne droite avec une date pour la réouverture, le 8 décembre prochain. Journée spéciale sur Europe 1 dédiée à ceux qui ont sauvé la cathédrale. C'est le cas du général Jean-Claude Gallet, commandant des pompiers le soir du drame. Alors que les flammes menaçaient de faire s'effondrer tout l'édifice, il avait fait le choix d'envoyer ses hommes dans l'une des tours en feu.
Au moment où on croit que c'est perdu, on voit les deux beffrois qui se dressent et les flammes. Alors les flammes, la charpente, elles étaient encore assez hautes, elles étaient à une vingtaine de mètres. Et les pompiers, on peut les distinguer pour deux choses. Une part avec le casque qui scintille et la lampe de casque, c'est la petite luciole. Je pense que c'est gagné parce que la détermination dont ils font preuve dans leur progression, en fait, elle est nettement perceptible, même à 100 mètres sur le parvis, parce qu'on le voit avec la position des casques. C'est-à-dire, on ne voit pas de doute. Il y a le vide 45 mètres à gauche, ils ont 20 kilos de matériel, et il y a les flammes à... Chez moi, c'est bon, c'est gagné. Ça va passer juste, mais c'est gagné. Ce soir-là, je pense que chacun des intervenants était conscient de cette part de sacré et qu'elle était menacée. Et ils vont y arriver. Sans disparition et sans blessés graves, ce qui relève du miracle quand même.
Le général Jean-Claude Gallet avec Caroline Baudry pour Europe 1. Alors il y a 5 ans, il y a le courage des soldats du feu. Aujourd'hui, il y a la détermination des ouvriers. Antoine Bienveau pour Europe 1, vous avez pu vous rendre sur le chantier de la cathédrale. D'ailleurs, vous nous emmenez à l'intérieur.
Oui, je vous emmène dans Notre-Dame, là où peu de gens ont eu le privilège de rentrer depuis 5 ans. Alors vous l'entendez, le chantier bat toujours son plein à l'intérieur et ce qui frappe en entrant, c'est la blondeur des pierres restaurées par les compagnons. Leur éclat est plus blond qu'avant l'incendie. Résultat, la cathédrale semble plus lumineuse, comme l'explique Rémi Fromont, architecte en chef des monuments historiques.
La cathédrale était quand même assez encrassée, même s'il y avait déjà eu du nettoyage. Et là, on va retrouver une cathédrale qui va avoir sa blondeur. Et donc l'intérieur va paraître extrêmement lumineux par rapport à ce qu'on connaissait avant l'incendie. La cathédrale va resplendir d'un éclat qu'elle n'a pas connue depuis très longtemps.
Une cathédrale plus lumineuse que jamais, restaurée à l'identique jusque dans les moindres détails, grâce aussi au travail des ébénistes dont fait partie Loïs Pires. Depuis fin décembre, il restaure les stalles en bois, la rangée de sièges devant le grand autel.
On a récolté tous les morceaux qu'on a pu retrouver et du coup le gros du boulot, ça a été de remplacer ou de recoller chaque morceau qui était cassé. Et ensuite, on a un vernisseur et un sculpteur qui viennent redonner la forme initiale aux morceaux qu'on restaure.
Cet ébéniste, il n'a que 26 ans et il faut le souligner. Le chantier de Notre-Dame compte beaucoup de jeunes compagnons comme lui. Une jeunesse qui rend d'autant plus fier Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame.
Je suis admiratif. On a des savoir-faire et des compétences extraordinaires qui se déploient sur ce chantier et qui font vraiment honneur à la France. Et donc on encourage vraiment les jeunes à se diriger vers ces métiers. Il y a du travail en France, on a un patrimoine extraordinaire. Et donc il faut y penser, y songer.
Un savoir-faire qui a déjà permis de restaurer une très large partie du mobilier à l'intérieur de Notre-Dame, notamment le vœu de Louis XIII placé juste derrière l'autel, qui a déjà retrouvé toute sa splendeur.
Merci Antoine Bienveau pour Europe 1. Emmanuel Macron, lui, s'est rendu sur un autre chantier ce matin, celui du Grand Palais. à 100 jours du coup d'envoi des Jeux Olympiques, comme le veut la tradition. La flamme, elle, sera allumée demain dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce. Jean-Baptiste Marty, pour la première fois, le président reconnaît qu'en cas de menace terroriste, il y a bien des plans de secours pour la cérémonie d'ouverture.
Oui, un plan B, voire même un plan C.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Mmh. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voire qui rapatrierait dans le Stade de France. Okay. Parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Emmanuel Macron reconnaît donc la résurgence de la menace illustrée par le passage du plan Vigipirate en urgence attentat depuis le 24 mars dernier à la suite de l'attentat de Moscou. Une menace également renforcée après l'attaque de drones de l'Iran sur Israël samedi soir. Mais malgré cela, le chef de l'État ne veut pas tomber dans la psychose.
Vous savez, c'est très important. Notre pays, malheureusement, depuis tant d'années, est frappé par le terrorisme. Et ce que veulent avant tout les terroristes, c'est nous empêcher de rêver. Et leur plus grande victoire, c'est ça.
326 000 spectateurs sont attendus le long de la Seine. Une cérémonie sous haute surveillance donc, mais jusqu'au dernier moment, Emmanuel Macron se réserve le droit de changer l'organisation de cette cérémonie.
Merci Jean-Baptiste Marty. Sur les menaces de grève de la CGT et de Force ouvrière sous cette période, le chef de l'État dit sa confiance en les syndicats et leur esprit de responsabilité. Emmanuel Macron, qui, malgré le contexte international, l'assure, on va tout faire pour avoir une trêve olympique après l'attaque de l'Iran contre Israël ce week-end.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h05.
Justement, le cabinet de guerre israélien doit se réunir à nouveau en ce moment. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Benjamin Netanyahou, alors qu'on attend toujours la riposte d'Israël. Ce midi, sur place, l'alerte reste à un niveau très élevé. On retrouve à Tel Aviv notre envoyé spécial européen Wilfried de Villers. Wilfried, la question d'une riposte israélienne se pose. Qu'en pensent les habitants que vous avez rencontrés ?
Eh bien ici, à Tel Aviv, ils sont partagés sur cette question d'une éventuelle riposte. Ce qui est sûr, c'est que ces frappes iraniennes, ont particulièrement marqué les esprits parce que c'est la première fois que Téhéran mène une attaque depuis son sol contre Israël. C'est ce que m'a expliqué Sarah, une franco-israélienne installée à Tel Aviv depuis 3 ans.
Pour moi, c'était nouveau. C'est pas comme ce qui s'est passé avec Gaza. C'est l'Iran. On sait qu'ils ont plus de missiles, plus de forces de frappe. Et c'est ça qui fait plus peur.
La jeune femme, elle, n'est pas en faveur d'une riposte pour l'instant.
Je pense que ça peut vite amener à une escalade avec les autres pays. Ça peut vite s'embraser et faire un conflit plus régional, voire mondial.
C'est aussi ce que redoute une autre Israélienne qui espère que Jérusalem temporise pour l'instant au moins le temps des fêtes de la Pâque juive la semaine prochaine. Son amie Émilie, elle, estime qu'une contre-attaque est nécessaire.
On ne peut pas faire preuve de faiblesse de ces pays-là qui veulent notre mort, en fait. Donc on est obligé, effectivement, d'avoir des réponses, j'entends bien, militaires et appropriées. On est bien obligé de répliquer, puisqu'on veut la paix, mais ils ne veulent pas la paix. On fait quoi ?
Reste que la crainte d'un embrasement régional et d'une guerre ouverte contre l'Iran est dans tous les esprits ici. Vous le disiez Thomas, le cabinet de guerre israélien se réunit à nouveau en ce moment. Le gouvernement n'a pas encore communiqué sur la riposte envisagée contre Téhéran.
Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Ce matin, Emmanuel Macron a confirmé que la France avait procédé à des interceptions de missiles et de drones iraniens à la demande de la Jordanie. En France, après la stupeur de la classe politique qui a condamné l'attaque iranienne, mais condamné avec des nuances, Marine Le Pen juge inadmissible qu'Israël voit à nouveau son droit à la sécurité mis en cause. La candidate en position éligible sur la liste européenne de la France insoumise, Rima Hassan, renvoie, elle, dos à dos Iran et Israël lors d'un meeting hier à Montpellier. Alexis de La Fontaine, c'est une stratégie désormais assumée par les troupes de Jean-Luc Mélenchon. L'antisionisme fait partie de l'axe de campagne pour le 9 juin.
Oui, comme hier à Montpellier, pour chauffer la salle avant le meeting de Manon Aubry, les milliers de militants présents scandent des slogans anti-israéliens. Écoutez. Kéfier sur la tête et drapeau palestinien sont visibles dans la salle. Sur scène, les intervenants condamnent à tour de rôle l'État israélien. Et certains députés insoumis vont encore plus loin, comme Ersilia Soudé qui accuse Israël d'avoir déclaré la guerre à l'Iran après les attaques de samedi soir. Et elle renvoie dos à dos, je cite, « ces deux théocraties », alors qu'Israël est la seule démocratie laïque du Proche-Orient. Pour éviter que ce type de dérapage se produise dans sa région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand vient de demander au préfet du Nord d'interdire la conférence de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan qui doit se tenir ce jeudi à l'Université de Lille.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, l'ouverture d'un procès historique aux États-Unis, celui de l'ancien président Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. On y revient juste après ça.
Et pour réagir, vous nous appelez 01 80 20 39 21. A tout de suite pour Europe 1 13h avec Thomas Schnell.
Europe 1 13h.
13h, 14h, c'est Europe 1 13h avec Thomas Schnell. La suite de votre journal, Thomas.
Une nouvelle attaque au couteau ce matin à Sydney. La police australienne a arrêté l'homme présumé responsable de cette attaque dans une église. Cela 48 heures après une autre attaque au couteau dans un centre commercial qui avait fait 6 morts en Australie. Donald Trump, rattrapé par son passé, l'ex-président américain doit répondre de 34 chefs d'accusation devant un tribunal de New York dans l'affaire Stormy Daniels. Il lui est notamment reproché d'avoir détourné de l'argent pour acheter le silence de l'actrice X. Anne Toulouse, vous êtes notre correspondante européen à Washington. Anne, la composition d'un jury impartial s'annonce très compliquée.
Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, ce matin, près de 500 personnes ont été convoquées au tribunal par tirage au sort et seulement 18 seront retenues, 12 jurés et 6 remplaçants. Beaucoup d'entre eux seront éliminés d'emblée d'après leur réponse au questionnaire de 7 pages qui leur a été remis. Ont-ils assisté à des réunions de campagne de Trump? Quelqu'un de leur famille a-t-il travaillé pour lui? Suivent-ils des sites pro ou anti-Trump sur les réseaux sociaux? L'un des critères qui d'habitude préside à la sélection d'un jury, ne pas avoir d'idées préconçues sur l'affaire, n'est pas d'actualité. Donald Trump a vainement essayé de ne pas être jugé sur son territoire où il y a 3 démocrates pour un républicain. Que ce soit dans la phase de sélection du jury ou dans la suite de la procédure, la politique sera omniprésente et on peut compter sur Donald Trump pour y contribuer. Il a concentré dans les prochaines semaines ses activités de campagne à New York et compte bien y faire du tribunal une tribune.
En France, combien seront-ils à présenter leur épaule aux pharmaciens? Une nouvelle campagne de vaccination pour le rappel contre le Covid-19. Campagne destinée aux plus âgés et aux plus à risque, elle démarre aujourd'hui. Les bruyants défilés de motards en colère n'auront rien changé. Le contrôle technique des deux roues entre en vigueur aujourd'hui. Motos, scooters, quads sont concernés. Barthélémy Philippe, ils devront faire vérifier l'état de leur véhicule tous les 3 ans.
Si vous faites partie des 4 millions de motards français, c'est un rendez-vous à noter, mais pas d'urgence. Le calendrier du contrôle technique est échelonné selon la date d'immatriculation de votre véhicule. Pour les deux roues les plus anciens mis en circulation avant le 15 avril 2017, vous avez jusqu'au 14 août. Pour les véhicules mis en circulation entre 2017 et 2019, ce sera 2025. Et dans les 6 mois avant le 5e anniversaire, pour ceux qui datent de 2022 et les plus récents, les vérifications sont les même que pour une voiture, explique Laurent Palmier, président du réseau Sécuritest.
Tous les organes de sécurité, la signalisation, l'éclairage, l'état des pneumatiques.
Côté prix, le gouvernement avait évoqué une 50aine d'euros, mais les centres de contrôle sont libres de fixer leurs tarifs.
50 euros, c'est sans doute le tarif pour les scooters. Et puis, s'il faut autant de temps pour un contrôle moto que pour un véhicule léger, 80 ou 90 euros.
Enfin, sachez que le contrôle évoluera l'an prochain avec les émissions sonores et la vitesse pour détecter les véhicules débridés.
Le mois de mars a été particulièrement meurtrier sur les routes, plus 31% de décès. Les chiffres de la sécurité routière par rapport à l'an dernier témoignent d'une dégradation très importante. 254 Français sont morts sur les routes contre 194 en mars 2023. On compte notamment 3 usagers d'engins type trottinette et également 37 piétons tués. Le gouvernement souhaite encore simplifier la fiche de paye dans un projet de loi bientôt présenté en Conseil des ministres. Bercy veut réduire le nombre de lignes, clarifier la lecture des cotisations jugées obscures. Margot Fodéré, le gouvernement promet de faciliter la vie des salariés et des entreprises.
Oui, l'exécutif veut que la fiche de paye soit plus compréhensible. L'idée, c'est de ne garder que les principaux composants de la rémunération. Il veut aussi que la fiche de paye soit plus lisible, vous l'avez dit, en réduisant au maximum le nombre de lignes sur la fiche de paye, qui aujourd'hui sont devenues trop nombreuses, estime le député Renaissance Louis Marguerite, et co-auteur d'un rapport parlementaire sur la simplification.
Il y a effectivement parfois des bulletins de salaire qui sont à 40, 50 lignes en fonction de si vous avez eu des récupérations, les différents éléments des prélèvements sociaux. L'idée, c'est de revenir moins de 20, en tout cas moins de 10, peut-être moins de 5, avoir un nombre beaucoup plus limité pour qu'on ait une lecture plus lisible, pour qu'on se rende compte effectivement de ce que l'employeur nous verse.
Alors ça, ce sera la version générique du bulletin de salaire. Mais si un salarié a une question et souhaite obtenir le détail de sa rémunération, il pourra alors demander une version plus complète à son employeur. C'est le dernier principe, la transparence. Même si on a du mal à voir en quoi ça va s'intéresser, simplifier la vie des gestionnaires de paye qui auront plus de travail. En tout cas, si le texte est adopté, les entreprises auront jusqu'au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.
Merci Margot. En football, cette soirée de folie hier soir à Lyon, en clôture de la 29e journée de Ligue 1, un temps mené 3-1 jusqu'à la 70e minute. L'OL s'est finalement imposé à domicile face au Dauphin, le Stade Brestois, score final 4-3. Vous écoutez Europe 1. Il est 13h passé de 16 minutes. Comme chaque jour, on fait un point sur les marchés avec Claire Lemaître de boursier.com. Claire, le CAC repasse les 8000 points.
Oui, on est en hausse, plus 0,8%, 8078 points, avec quand même des investisseurs prudents, attentifs après l'attaque menée par l'Iran sur Israël. Signe de tension du côté des valeurs, la défense et l'aéronautique sont en hausse après cette attaque. Dassault Aviation gagne 2,4%, plus 1,7% pour Thales, plus 1% pour Airbus. Et on surveille aussi le pétrole, le Brent, la référence internationale, est en léger repli sous les 90 dollars le baril. Et il avait touché un pic de près de 6 mois vendredi. Du côté des autres places européennes, Francfort gagne 0,8%, repli en revanche pour Londres, moins 0,5%, et plus 0,8% à Paris pour le CAC 40, 8078 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. On vous retrouve ce soir pour un nouveau point sur les marchés. La météo, Mickaël Poteau, une perturbation arrive actuellement sur le nord de la France.
Et oui Thomas, elle s'étend de la Bretagne aux frontières belges avec un apport de pluie considérable et des vents violents de 70 à 80 km par heure sur les côtes de la Manche et jusqu'à 120 km par heure dans le nord. Prudence donc dans ce secteur, sachant que trois départements sont placés en vigilance orange pour vent. La Somme, le Pas-de-Calais et le Nord. Cette perturbation va ensuite glisser cet après-midi, couvrant la France du Nord-Aquitaine jusqu'à l'Alsace, en passant par l'Île-de-France et la Bourgogne, laissant derrière elle un ciel plutôt mitigé entre éclaircies et averses. Et au sud de cette perturbation, tout va bien, le ciel est plaisant, mais vous ne serez pas épargné par le vent, une tramontane souffle entre 70 et 80 km par heure. Les températures Thomas, eh bien, elles retrouvent leur valeur de saison entre 11 et 27 degrés, 11 à Boulogne-sur-Mer, 13 à Amiens, 15 à Bourges, 16 au Mans, à Reims et à Paris, 20 pour Annecy, 22 à Saint-Etienne, 23 à Toulon, 25 à Marseille et jusqu'à 27 pour Nîmes.
Il ne fallait pas trop s'habituer au retour des fortunes ce week-end. Hein. Merci Mickaël. Dans un instant, quelles sont les options d'Israël face à l'attaque iranienne? Faut-il craindre une escalade? Et comment la classe politique française prend position dans ce conflit? On en parle dans un instant sur Europe 1 avec l'essayiste Naïma Mfadel et le chroniqueur politique Olivier Dartigol. Ils seront avec nous en studio.
C'est Europe 1 13h avec Thomas Schnell cette semaine. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Thomas Schnell est avec vous sur Europe 1 et à 13h21, Thomas, vous accueillez vos chroniqueurs du jour.
Oui, nous sommes avec l'essayiste Naïma Mfadel, bonjour. Le chroniqueur politique Olivier Dartigol, bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Ce week-end, nous avons vu ces centaines de missiles partir d'Iran en direction d'Israël. 99% ont été arrêtés. Pour l'instant, on n'a pas la réplique encore. Il y a une nouvelle réunion du cabinet de guerre israélien. On voit la pression maximale sur les Israéliens pour éviter la surenchère. Il y aura une réplique, mais laquelle, Olivier Dartigol?
Oui, bien sûr. On s'interroge sur la nature, le calendrier de la réplique israélienne qui aura lieu. Il faut bien dire qu'on est là dans un basculement. Jamais l'Iran n'avait attaqué directement le sol israélien de cette manière-là. Il y avait eu les événements à Damas sur l'ambassade iranienne. Il y a donc, bien sûr, pour prendre les mots qui font florès et qu'on lit partout ce matin, le danger d'une escalade, d'un embrasement régional, avec quand même... ces lignes rouges ont été franchies, mais on voit bien que les États-Unis, qui sont l'un des acteurs principaux de la situation, font comme ils ont fait après le 7 octobre, n'encouragent pas le régime, le gouvernement israélien à une réaction trop forte. Il y a aussi les accords d'Abraham, on en avait un peu parlé à une certaine période, qui se sont mis en place. Et on a vu donc une coalition de solidarité autour d'Israël lors de cette nuit des drones et des missiles.
Peut-être une clarification d'ailleurs, qui soutient Israël?
Bien sûr,
qui
donc,
soutient
on a vu les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Jordanie, c'est important puisque notre riposte est partie nous aussi de Jordanie. Donc on voit les choses se mettre en place la pièce qui manque aujourd'hui, c'est savoir le niveau de riposte du côté israélien. Peut-être que cela n'est pas encore arbitré d'ailleurs.
Naïm Fadel, quelles sont les limites qu'Israël va se fixer ?
Moi, je pense qu'Israël n'a, disons, pas intérêt à riposter aujourd'hui, parce que ce qui s'est passé avec cette frappe sur, enfin, ces drones et missiles qui ont été envoyés sur Israël, c'est que l'Iran a fait une grosse erreur. Jusqu'à maintenant, il attaquait Israël, mais par procuration, via notamment le Hezbollah au Liban et via aussi les rebelles Houthis du Yémen. Donc, c'était jamais frontal. Aujourd'hui, il a fait quelque chose qui va lui revenir en boomerang. D'autant plus qu'au niveau géopolitique, ça a revu complètement l'échiquier. Effectivement, Olivier a cité ceux qui sont dans les accords d'Abraham, mais je citerai aussi ceux qui allaient signer les accords d'Abraham, l'Arabie Saoudite, notamment, et même le Qatar, qui est quand même l'allié, disons, directement via le Hamas de l'Iran, n'a aucun intérêt aujourd'hui à ce qu'il y ait un embrasement. Il faut aussi rappeler une chose, une donne qui est très importante, c'est que l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un pays en plus chiite, avec l'ensemble des pays qui sont au Proche-Orient sont des pays arabes et des pays sunnites. Comme vous le savez, les chiites et les sunnites ne s'entendent pas très beaucoup. Donc effectivement, aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, c'est plutôt en faveur d'Israël. Et ça va permettre aussi que les Arabes, et notamment les pétrodollars, les monarchies pétrodollars, elles vont absolument pas vouloir laisser le leadership à l'Iran.
Naïm M. Fadel, Olivier Dartigol, écoutez ce témoignage. Nous sommes en direct avec Rebecca. Bonjour. Rebecca, vous vivez justement sur place, vous avez 38 ans, vous habitez en Israël. J'ai envie de vous demander tout simplement, comment allez-vous ce matin ?
Alors, déjà, merci de me donner la parole. Alors, je peux vous dire que c'est une situation un petit peu particulière, mais je peux vous dire qu'on est, enfin moi personnellement, il y a un grand soulagement d'avoir pu sans ressentir concrètement que l'armée était à la hauteur et avait pu contrôler les menaces. Parce que, en fait, le 7 octobre, il y a eu quand même un grand traumatisme sur le fait que le seul État juif aujourd'hui qui était refuge pour tous les Juifs, en particulier moi je suis juive francophone, mais on va dire il y a eu ce sentiment de tristesse et de perte de confiance sur la sécurité. Et aujourd'hui, il y a eu ce soulagement en disant, voilà, malgré les menaces, parce que les menaces existent partout dans le monde, même en France, la question c'est de savoir est-ce qu'on est à la hauteur, est-ce qu'on contrôle la menace et est-ce qu'on a les moyens de nous protéger. Donc, évidemment, nous sommes inquiets, mais nous sommes résilients et la confiance est revenue. Voilà, donc
Rebecca,
c'est ce que je peux dire aujourd'hui.
Le cabinet de guerre israélien se réunit normalement en ce moment. Qu'est-ce que vous attendez comme riposte de la part d'Israël ?
Alors, moi, je ne suis pas expert militaire, mais ce que je peux dire, c'est que j'attends une réponse efficace au moment opportun. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que l'Iran a peur, il attend la réponse, elle va forcément arriver. Mais peut-être qu'elle n'arrivera pas aujourd'hui. Il ne faut pas, à mes yeux, on n'aura pas l'effet de surprise. Donc peut-être que c'est plus efficace d'agir un peu plus tard. Mais d'un autre côté, on va perdre peut-être le soutien faible aujourd'hui, puisque Israël n'est pas soutenu. C'est pas dans la bonne vague de soutenir Israël depuis de nombreuses années. Et c'est souvent quand il est attaqué que là on a cette petite pitié pour notre pays. Mais voilà, donc faut doser dans ce compromis quand les soutiens diplomatiques. C'est sûr qu'il faut une réponse, mais moi j'ai pas aujourd'hui assez d'informations. Il faut qu'elle y ait, parce que sinon on va se faire écraser et il faut montrer qu'on est fort. Maintenant, choisir le moment et dans quelle mesure, ça reste un mystère. Voilà, on a confiance, c'est une question de confiance.
Rebecca, c'est la première fois que l'Iran attaque frontalement Israël. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on assiste à un tournant aujourd'hui ? Est-ce que c'est le sentiment partagé en Israël ?
Alors oui,
Pour ma part, oui. Je peux vous dire que samedi soir, dans la nuit, quand j'avais la télévision allumée et nous dit, bon ben voilà, il va y avoir 300 missiles qui sont en cours, qui sont tirés, qui sont dirigés vers vous, qui vont arriver entre 2h du matin et 4h du matin. Donc tout le monde a passé nuit blanche, rivé devant la télé, proche des abris. Personnellement, moi, je n'habite pas dans un immeuble restant, donc je n'ai pas un abri dans mon appartement. C'est seulement dans les parties communes. Mais quand on voit les villes s'afficher, les noms des villes s'afficher sur l'écran en disant « voilà, c'est l'adresse de chaque missile », faites attention, mais en même temps, le porte-parole qui parle, il est confiant, il dit « la situation est sous contrôle, les avions sont déjà dans les airs ». Ils sont prêts à viser et attaquer avant qu'ils arrivent en territoire israélien.
Et on entend votre soulagement, voilà. Rebecca, ce midi. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Nous sommes toujours avec Naïma Mfadel et Olivier Dartigolle. On va revenir dans un instant sur les conséquences et le positionnement de la classe politique française quant à cette crise qui s'est déclenchée ce week-end entre Iran et Israël. Ce sera juste après le rappel des titres.
Thomas Chenel vous informe, c'est une semaine de 13h à 14h. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 13h34, la suite d'Europe 1 13h avec vous Thomas Chenel et le débat se poursuit avec vos chroniqueurs.
Il se poursuit sur cette crise entre Iran et Israël déclenchée ce week-end. Nous sommes toujours avec Naïma Mfadel et Olivier Dartigolle. On a entendu la classe politique se positionner ce week-end, le Rassemblement National, mais surtout la France Insoumise qui détonne dans sa tentative de face à face, de renvoi dos à dos de l'Iran et d'Israël. D'un côté, condamnation des attaques de drones iraniens. De l'autre, condamnation du bombardement israélien sur le consulat iranien. Je voudrais qu'on écoute un extrait du meeting qui se tenait à Montpellier, où on a entendu la candidate en position éligible sur la liste La France Insoumise aux Européennes, Rima Hassan. Elle est juriste franco-palestinienne.
Palestine est un sujet européen, car nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des Palestiniens. Alors, camarades insoumis, je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation le 9 juin prochain, pour qu'on reconnaisse enfin l'État de Palestine, comme va le faire l'Irlande et l'Espagne, pour les Ukrainiens comme pour les Palestiniens. Nous sommes le camp de la paix.
Nous sommes tous des Palestiniens, répète Rima Hassan, Olivier Dartigolle. Ça vous paraît tenable, cette position ?
La reconnaissance de l'État de Palestine est une cause noble pour ceux qui défendent une solution à deux États, la paix et la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens. C'est d'ailleurs les résolutions de l'ONU. Là où le positionnement d'insoumis pose problème, c'est le fait de ne pas avoir qualifié la nature même du 7 octobre, où il n'est pas uniquement question de viser des Israéliens, mais des Juifs, où il s'agit d'un pogrom. Et le fait de ne pas dire le réel, à savoir que le Hamas n'est en rien le défenseur des Palestiniens, c'est même la pire des choses pour les Palestiniens, le Hamas, et qu'il s'agit bel et bien d'une organisation terroristes. Donc le fait que des insoumis, pas tous, n'aient pas eu cette clarté dès le 7 octobre, mais c'était aussi avant, les a totalement isolés. Alors moi, je n'ai pas envie de faire l'exégèse de la pensée des candidats insoumis sur cette liste ou d'Ersil Yassoudé, dont j'ai vu les nouvelles œuvres complètes ce matin, parce qu'il y a aussi de la gravité dans ce moment-là. Et heureusement que notre pays compte encore des responsables, des élus de gauche qui ne vont pas sur cette pente glissante qui est celle d'ailleurs du déshonneur.
Naïma Mfadel, on peut mettre Israël et l'Iran à équidistance ?
Absolument pas. Absolument pas. Il n'y a que LFI pour faire ça. Mais vous savez, moi je ne suis pas étonnée des propos qui ont été tenus lors de ce meeting. Je veux dire, LFI nous a habitués, effectivement, en commençant par ne pas condamner sans trembler le pogrom du 7 octobre. Le massacre d'enfants, de vieillards, de femmes, de femmes violées. Voilà, ils n'ont pas condamné. Pour eux, le Hamas, c'était des résistants. Vous imaginez ? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on invite dans la campagne électorale pour les européennes, qui doit concerner des sujets européens, cette cause palestinienne qu'on instrumentalise, en fait. C'est extrêmement grave.
Elle a accusé l'Europe d'être complice des bourreaux des Palestiniens.
Mais c'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte de ce qui se passe aujourd'hui pour un parti français qui doit être sur des sujets européens, encore une fois, des sujets qui concernent les Français, notamment vis-à-vis de l'Europe. Et aujourd'hui, on instrumentalise la cause palestinienne. Je suis d'accord avec Olivier, c'est une cause noble. Moi-même, je suis pour deux États, je suis pour la paix. Mais je trouve ça extrêmement grave d'instrumentaliser ainsi et de distiller cette haine
et d'essayer d'instrumentaliser,
parce que c'est ça qu'il faut dire, un électorat qu'ils ont ciblé, soi-disant, comme si cet électorat était homogène, en disant, nous, on défend la cause palestinienne, mais ils ne la défendent pas, au contraire. Au contraire, ils l'instrumentalisent et ils font en sorte qu'aujourd'hui, cette cause palestinienne qui est noble soit effectivement, mal considérée du fait de cette manipulation.
C'est un sujet de campagne européenne.
Oui, parce que, bien sûr, il y a une politisation à tous les étages et puis aussi des jeux allant vers de l'électoralisme pour essayer d'aller chercher... Un électorat dit communautaire, etc. Ce qui est réduire d'ailleurs des quartiers ou des personnes à une dimension, ce qui, moi, chaque fois me choque beaucoup. Mais il faut bien dire qu'il est parfaitement possible de critiquer la politique du gouvernement israélien sur la manière dont les choses se sont passées à Gaza après le 7 octobre, sur la colonisation en Cisjordanie. Y compris dans la société israélienne, le gouvernement Benjamin Netanyahou est critiqué. Et beaucoup attendent la commission d'enquête qui aura lieu, mais il faut que la guerre s'arrête. Mais on ne peut pas mettre sur le même plan une démocratie avec un régime tel que l'Iran, où les femmes sont lapidées, exécutées pour adultère, par exemple.
Et on suivra sur Europe 1, notamment les conséquences du cabinet de guerre, de la réunion qui se déroule en ce moment en Israël et l'éventuelle riposte qui pourrait être décidée par les autorités israéliennes suite à ce bombardement. Vous écoutez Europe 1, 13h40, on va passer à Notre-Dame.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après.
Journée spéciale sur Europe 1.
5 ans, jour pour jour, après l'incendie, journée spéciale dédiée à ceux qui ont sauvé la cathédrale sur Europe 1. Bonjour Mathieu Lourse.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales. 5 ans, jour pour jour, après l'incendie, est-ce que le pari de la réouverture est tenu ?
Oui, pari tenu, puisqu'on est actuellement dans les délais. Le chantier suit... son planning à peu près comme on s'y attendait. Donc,
vous y êtes au chantier, Mathieu Lourse ?
Oui, j'y suis là présentement. J'ai Notre-Dame juste à 100 mètres de moi. Et je vois donc cette flèche qui se révèle. C'est un peu le réconfort. On l'a vu s'effondrer. C'est très émouvant parce que je suis exactement à l'endroit où je l'ai vu s'effondrer le 15 avril 2019.
C'est l'impatience qui domine chez vous ce matin, Mathieu Lourse ?
Oui, quand même.
Alors, est-ce que, on l'a fait ? C'est quand même rare en France, 5 ans après, jour pour jour.
Oui.
Le 8 décembre, on y est, c'est demain.
Oui, le 8 décembre, on y est. Et puis surtout, il y a une qualité dans la mise en œuvre et dans le résultat tant esthétique que technique qui est vraiment à la hauteur de l'excellence patrimoniale française. On est quand même le pays qui a le plus reconstruit de cathédrales blessées par les guerres après la guerre de 14 et après la guerre de 39-45. Et cette excellence, on l'a exportée partout dans le monde, où les équipes françaises font vraiment référence. Et là, à nouveau, au cœur du 21e siècle, de faire nos architectes, nos équipes, nos services des monuments historiques, l'établissement public, qui ont travaillé ensemble pour ce très beau résultat.
Bon, peut-être que la flèche paraissait un petit peu une conversation. Je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on doit s'attendre pour la réouverture le 8 décembre ? À quoi va ressembler cette cérémonie ?
Alors, la cérémonie, donc il faudrait demander à l'archevêque et à monsieur le recteur, bien évidemment, mais cette cérémonie va ressembler d'une part à une cérémonie de conclusion des travaux, et puis à une réappropriation de la cathédrale par l'Église avec un grand E. Alors, même pendant les travaux, Notre-Dame est restée affectée au culte. C'est la loi de 1905. Mais le culte de la cathédrale s'est déplacé à Saint-Germain-l'Auxerrois ou à Saint-Sulpice, suivant les circonstances. Et là, c'est donc un retour chez elle de l'église de Paris, avec un grand E. sanctionné par, d'ailleurs, le retour de la statue de Notre-Dame, Notre-Dame du Pilier. Et ce sera en fait un cycle de cérémonies qui partira du 8 décembre et qui s'étendra sur plusieurs mois, probablement, auxquels il faut s'attendre.
Merci Mathieu Lours, historien de l'architecture, spécialiste des cathédrales en direct, à quelques centaines de mètres, à une centaine de mètres de Notre-Dame pour cet anniversaire. On y revient dans un instant avec Olivier Dartigolle, avec Naïm Mfadel, avec nous en studio et avec vous en direct sur Europe 1 juste après ça.
Et justement, 01 80 20 39 21, Thomas Chenel attend aussi vos réactions jusqu'à 14h pour Europe 1 13h. A tout de suite.
Notre-Dame de Paris, 5 ans après.
Europe 1, journée spéciale.
La suite d'Europe 1 13h avec Thomas Chenel et ses chroniqueurs pour débattre.
Et la suite de cette journée spéciale dédiée à ceux qui ont sauvé la cathédrale sur Europe 1, Notre-Dame de Paris, 5 ans jour pour jour après l'incendie. Cocorico, Naïma Mfadel.
Exactement, Cocorico.
Pour une fois que la France respecte sa parole en termes de travaux publics.
Félicitations à notre président de la République, puisqu'il l'avait promis et il l'a fait. Et c'est vrai qu'il faut quand même lui rendre hommage. Moi, j'en suis très heureuse. Vous savez, je suis une enfant de l'immigration et j'ai fait mienne ce qu'est la France. Et c'est vrai que cette cathédrale, quand elle a brûlé, moi, j'étais particulièrement émue, je vous assure, je veux vous le dire, j'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait c'est ma fille qui m'a appelée, qui était à Paris avec son amie Charlotte et qui me dit « Maman, Notre-Dame brûle ». Et elle était en pleurs. Et je vous assure de voir qu'aujourd'hui elle est en train d'être rénovée, de redevenir ce qu'elle était, ben moi j'en suis très très heureuse.
C'est rare un moment où toute une ville s'arrête et pointe son regard dans la même direction. Olivier Dartigolle, vous vous rappelez où est-ce que vous étiez?
Et toutes les vies, oui, à Paris, du côté du 20e. Et toutes les vies s'arrêtent. Ça fait partie de ces événements gigantesques où on se souvient, sans trop faire d'efforts, où nous étions. Et où en effet l'émotion a été partagé par ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas.
Exactement.
La rose et le réséda, pour reprendre Aragon. C'est-à-dire, il y avait là une part de nous-mêmes, de notre culture, de notre patrimoine, d'une identité partagée qui partait en fumée. Il faut bien sûr remercier ceux qui ont eu un comportement héroïque face à l'incendie. Et après, l'excellence de ces métiers français, reconstruction quasiment à l'identique. Sur
ces vitraux, ces chaînes qu'on a
flèche. Suivi ça a été un récit national de.
Est-ce qu'il faut en garder une trace de cet incendie? Quelle mémoire on devrait laisser?
Je vois que dans le Figaro ce matin, Mathieu Lours, qui était notre invité,
l'historien spécialiste,
historien spécialisé, indiquait que il hésitait sur cette réponse-là. Je ne sais pas s'il faut véritablement. En tout cas, il y aura un avant et un après sur les vitraux. Il y aura un avant et un après sur d'autres sur le matériel liturgique, par exemple. Mais bon, l'essentiel est que ça reparte. Et le 8, ça sera en effet quelque chose d'important pour le culte, le retour du culte, pour ceux qui attendent ça. Et pour les visiteurs, vous savez, Notre-Dame, c'est 12 millions de visiteurs chaque année. Donc, on va voir comment. Je sais qu'ils ont réfléchi une nouvelle déambulation pour faire en sorte que visiteurs ceux qui veulent venir se recueillir puissent partager ce lieu dans le même moment, le même espace.
12 millions plus vous, Naïma Mfadel, vous avez une impatience là pour cet anniversaire, c'est une date un peu symbolique.
Évidemment, j'aimerais bien, d'ailleurs je lance un appel, monsieur le président de la République, j'aimerais bien être invité. Non, ce que je trouve important, vous savez, je travaille beaucoup sur la cohésion nationale, sur la transmission du patrimoine qui fait qu'à un moment, un peuple fait nation. Et je trouve que pour le coup, bah, ça serait bien peut-être qu'autour de cette... de Notre-Dame, qui est effectivement au-delà de nos croyances, ou d'être croyant ou pas,
la
d'ailleurs,
culture populaire.
C'est avant tout voilà, un patrimoine commun à tous les Français. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, notamment en termes de transmission à nos enfants, et de transmission de ce qu'est, encore une fois, cette histoire de France à travers ces monuments.
Oui, et c'est vrai que ce moment où on fait nation, ce sera aussi dans 100 jours. Le 26
102.
Juillet, 102 exactement.
Je suis très précis là-dessus.
Olivier Dartigolle.
Parce qu'ils ont dit 100, j'ai vérifié, c'est 102 aujourd'hui.
C'est 102 pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais c'est 100 jours pour le début des épreuves, puisqu'il y a du football qui va démarrer quelques jours avant la cérémonie d'ouverture. Et Emmanuel Macron ce matin a levé un tabou. Il a annoncé, il y a un plan B, il y a un plan C qui sont prévus en cas de menace terroriste sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On le regrette ou
il a levé de tabou. Le premier nous a dit qu'il ne souhaitait pas porter la flamme olympique, mais j'ai jamais vu quelqu'un le lui demander expressément. Le second est plus grave, c'est que l'ensemble des spécialistes de la sécurité, notamment la DGSI, la Direction Générale du Service Intérieur, dit que jamais une cérémonie d'ouverture ne s'est passée hors stade. Et que le format de cette cérémonie d'ouverture suscite l'inquiétude, pour ne pas dire plus, de ces spécialistes de la sécurité. Après le Bataclan russe, et alors que nous sommes menacés par le même groupe terroriste, les plans B ou C doivent quand même être mis sur la table. Et là, c'est tout neuf, tout chaud, puisque ça date de ce matin. Mmh. Pour la première fois, il me semble, officiellement, le président de la République met sur la table ce plan B ou C, c'est-à-dire
Trocadéro ou le Stade de France, bah, effectivement.
D'autant plus Naïm qu'il avait écarté ses options. Il avait dit non, ça se fera exactement là où c'était prévu. Et effectivement, on est quand même aujourd'hui en urgence attentat. Regardez tous les événements aussi qui se passent effectivement au Proche-Orient. Je pense que là, le président de la République, c'est en responsabilité qu'il a pris cette décision et qu'on peut souligner parce qu'effectivement, on ne peut pas mettre en danger le peuple. Après, moi, ce que j'aimerais aussi soulever, c'est qu'aujourd'hui, il faut engager toute la société, tous les Français dans leur entièreté autour des signaux faibles.
Plan B ou plan C, justement, on va écouter le chef de l'État.
On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Mmh. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de...
S'il faut restreindre le lieu.
Exactement. Voir qui rapatrierait dans le Stade de France. Okay. Parce que c'est ce qui se fait classiquement.
Il nous prépare, là. Oui. Il est en train de
mais
dire,
la grande
bon,
question
ça
est de savoir si notre... Moi, je ne sens pas autour de moi un enthousiasme, un compte à rebours auprès de celles et ceux que je côtoie... Il n'y a pas un climat de « chouette, les JO arrivent ». Est-ce que le basculement aura lieu quelques jours avant? Est-ce que cela aura lieu lors de la cérémonie d'ouverture et on va se passionner par les épreuves et on souhaite dépasser notre record de médailles qui était à 33 à Tokyo? Ou est-ce qu'il va rester un climat qui ne sera pas un climat de j'allais dire d'unité nationale, oui, mais d'une forme d'enthousiasme, de plaisir partagé? Pour l'instant, nous n'y sommes pas.
Bah parce que aussi l'État, Olivier, ne cesse de parler que des problèmes qu'on peut rencontrer, et puis des QR codes, des difficultés à avoir des places, des jauges qui vont être restreintes et tout. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire que cet engouement, cette cocorico, cette envie aussi d'être dedans, de porter haut les couleurs de la France, etc. Il faut qu'aussi, à un moment, nos gouvernants sachent aussi le distiller au niveau de la population. Aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, même moi, je mettrais bleu, blanc, rouge, certainement, mais je ne me sens pas, et autour de moi, pour rejoindre ce qu'a dit Olivier, je ne sens pas un engouement.
Bon, il y a peut-être un petit esprit chagrin qui est peut-être mais français.
C'était la scientifique à Londres, il me semble. Où ça avait mis du temps
2007.
Et après, il y avait
après,
une bascule.
C'était lancé, et oui. On en rêve peut-être aussi de voir cette cérémonie sur la scène. Mise en scène par Thomas Joly, effectivement, ça porte. Bon, on a vu des images qui sont pour l'instant seulement des propositions. Mmh. Ce serait un regret pour vous de devoir composer avec le risque terroriste et donc de devoir voir à la baisse
moi,
nos ambitions.
Moi, véritablement, je sais que tout fait polémique dans notre pays, mais je vais m'en remettre à la décision politique, certainement nourrie par l'expertise de ceux dont c'est le métier. C'est-à-dire que si ça reste tel que c'est prévu, c'est formidable, parce que c'est un imaginaire et quelque chose de... On voit bien là, ce que cela peut vouloir dire. Mais s'il y a un plan B ou C, moi, je ne verrai pas mauvaise polémique à dénoncer ce choix.
Je rejoins ce que vient de dire Olivier, sachant que moi, par principe, je fais confiance. Et je trouve que le ministre Darmanin est un bon ministre et qu'actuellement, il est vraiment à la tâche et qu'il aura le souci, en tout cas, avant tout, de protéger les Français. Et cocorico.
Et il y a un problème quant à la sécurité. On parle de la cérémonie, mais tout ce qui va se passer en dehors aussi, tous les autres aspects, parce qu'il n'y a pas que le 26 juillet, il y a tout le reste. Il y avait une auditrice qui était avec nous sur Europe 1 dans l'émission précédente avec Pascal Praud qui nous confiait son inquiétude quant à la capacité française de faire face.
Pendant donc les JO et les Jeux paralympiques, tout le continuum de sécurité mobilisé d'un pays, c'est-à-dire la police régalienne, police et gendarmes, les polices municipales et les sociétés privées de sécurité. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de personnes à mobiliser, pour certaines encore à former, mais il y a aussi l'idée que ça peut nous faire concentrer notre réponse sécuritaire dans un espace donné, celui des sites des Jeux Olympiques, mais le territoire national n'est pas que le site olympique. Donc il y a là un moment, on le sait bien, de tension sécuritaire, mais notre pays est très certainement en capacité de relever le défi, comme les services le font au quotidien, puisqu'il y a de nombreux projets d'attentats qui sont déjoués. Il faut d'ailleurs dire l'excellence de nos services, parce que c'est beaucoup de moyens qui sont mobilisés. Il en faudrait peut-être davantage, si j'en crois certains spécialistes, mais il y a quand même des résultats qui sont obtenus, malgré tout, et malgré les drames qu'on a vécus. Bien évidemment, on a une pensée pour ces drames.
On se demande quand est-ce que va s'enclencher peut-être cette passion pour les JO. Peut-être que c'était ce matin, première étape d'Emmanuel Macron qui va sans doute se démultiplier. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce symbole sous la grande nef, du grand palais, micro à la main, le président de la République qui joue...
Je l'ai trouvé très allant. Le président, dans ces moments-là, est un super communicant. Mais après, je pense que ce basculement dans de l'enthousiasme national, je ne le sens pas pour aujourd'hui. Je suis désolé pour cette journée en tout cas, ni peut-être pour cette semaine, parce qu'il y a beaucoup de tensions et la France et la société française est une société cocotte minute. J'espère que ça arrivera parce qu'on a peut-être besoin d'un moment où les choses s'apaisent un peu et où on va vers ce rêve olympique, vers ces épreuves, et ce serait formidable.
Merci Olivier Dartigolle, merci Naïma M. Fadel d'avoir été avec nous dans ce 13-14 sur Europe 1 qui s'achève sur cette note d'espoir. Tout de même, on espère que les Français vont finir par se passionner pour...
Et
des médailles sans doute, et battre des records. Il est 13h57, Michael.
Oui, exactement. C'était Thomas Chenel. À demain, Thomas, Europe 1, 13h, à réécouter sur le site et l'application Europe 1. Europe 1 qui dédie toute son antenne aujourd'hui à Notre-Dame de Paris, 5 ans après cet incendie ravageur. Et ce sera le cas tout à l'heure avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Vous saurez tout sur la cathédrale, de sa construction à sa restauration. Historiquement Vôtre, 15h, 16h sur Europe 1. Votre après-midi se poursuit dans un instant avec le journal de 14h et on la raconte.